jusqu'à des temps meilleurs, reprit la maréchale en tournant le dos lentement. Arnoux et Frédéric s'en revinrent ensemble comme ils étaient venus. Le marchand de faïence avait un air tellement sombre que son compagnon le crut indisposé. Moi ? Pas du tout. Il se mordait la moustache, fronçait les sourcils, et Frédéric lui demanda si ce n'était pas ses affaires qui le tourmentaient. Nullement. Puis, tout à coup, « Vous le connaissiez, n'est-ce pas, le père Oudry ?» Et avec une expression de rancune, « Il est riche, le vieux gredin !» Ensuite, Arnoux parla d'une cuisson importante que l'on devait finir aujourd'hui à sa fabrique. Il voulait la voir. Le train partait dans une heure. « Il faut cependant que j'aille embrasser ma femme. »« Ah, sa femme !» pensa Frédéric. Puis il se coucha, avec une douleur intolérable à l'occiput, et il but une carafe d'eau pour calmer sa soif. Une autre soif lui était venue, celle des femmes, du luxe, et de tout ce que comporte l'existence parisienne. Il se sentait quelque peu étourdi, comme un homme qui descend d'un vaisseau, et dans l'hallucination du premier sommeil, il voyait passer et repasser continuellement les épaules de la poissarde, les reins de la débardeuse, les mollets de la polonaise, la chevelure de la sauvagesse. Puis, deux grands yeux noirs, qui n'étaient pas dans le bal, parurent, et légers comme des papillons, ardents comme des torches, ils allaient, venaient, vibraient, montaient dans la corniche, descendaient jusqu'à sa bouche. Frédéric s'acharnait à reconnaître ses yeux sans y parvenir, mais déjà le rêve l'avait pris. Il lui semblait qu'il était attelé près d'Arnoux, au timon d'un fiacre, et que la maréchale, à califourchon sur lui, l'éventrait avec ses éperons d'or. Chapitre deuxième. Frédéric trouva, au coin d'un rue Rinfort, un petit hôtel, et il s'acheta tout à la fois le coupé, le cheval, les meubles et deux jardinières prises chez Arnoux pour mettre aux deux coins de la porte dans son salon. Derrière cet appartement était une chambre et un cabinet. L'idée lui vint d'y loger des lauriers. Mais comment la recevrait-il, elle, sa maîtresse future? La présence d'un ami serait une gêne. Il abattit le refend pour agrandir le salon et fit du cabinet un fumoir. Il acheta les poètes qu'il aimait, des voyages, des atlas, des dictionnaires, car il avait des plans de travail sans nombre. Il pressait les ouvriers, courait les magasins, et dans son impatience de jouir, emportait tout sans marchander. D'après les notes des fournisseurs, Frédéric s'aperçut qu'il aurait à débourser prochainement une quarantaine de mille francs, non compris les droits de succession, lesquels dépasseraient 37 000. Comme sa fortune était en biens territoriaux, il écrivit au notaire du Havre d'en vendre une partie pour se libérer de ses dettes et avoir quelque argent à sa disposition. Puis, voulant connaître enfin cette chose vague, miroitante et indéfinissable qu'on appelle le monde, il demanda par un billet aux Dambreuses s'il pouvait le recevoir. Madame répondit qu'elle espérait sa visite pour le lendemain. C'était jour de réception. Des voitures stationnaient dans la cour. Deux valets se précipitèrent sous la marquise et un troisième, au haut de l'escalier, se mit à marcher devant lui. Il traversa une antichambre, une seconde pièce, puis un grand salon à haute fenêtre, et dont la cheminée monumentale supportait une pendule en forme de sphère, avec deux vases de porcelaine monstrueux où se hérissaient, comme deux buissons d'or, deux faisceaux de bobèches. Des tableaux dans la manière de l'espagnolet étaient appendus au mur. Les lourdes portières en tapisserie tombaient majestueusement, et les fauteuils, les consoles, les tables, tout le mobilier, qui était de style empire, avait quelque chose d'imposant et de diplomatique. Frédéric souriait de plaisir, malgré lui. Enfin, il arriva dans un appartement ovale, lambrissé de bois de rose, bourré de meubles mignons, et qu'éclairait une seule glace donnant sur un jardin. Madame Dambreuse était auprès du feu, une douzaine de personnes formant cercle autour d'elle. Avec un mot aimable, elle lui fit signe de s'asseoir, mais sans paraître surprise de ne l'avoir pas vue depuis longtemps. On vantait, quand il entra, l'éloquence de l'abbé Cœur. Puis, on déplora l'immoralité des domestiques à propos d'un vol commis par un valet de chambre, et les cancans se déroulèrent. La vieille dame de Somery avait un rhume. Mademoiselle de Turviso se mariait. Les Moncharon ne reviendraient pas avant la fin de janvier, les Bretancourt non plus. Maintenant, on restait tard à la campagne. et la misère des propos se trouvait comme renforcée par le luxe des choses ambiantes. Mais ce qu'on disait était moins stupide que la manière de causer sans but, sans suite et sans animation. Il y avait là, cependant, des hommes versés dans la vie, un ancien ministre, le curé d'une grande paroisse, deux ou trois hauts fonctionnaires du gouvernement. Ils s'en tenaient aux lieux communs les plus rebattus. Quelques-uns ressemblaient à des douairières fatiguées, d'autres avaient des tournures de maquignons, et des vieillards accompagnaient leurs femmes dont ils auraient pu se faire passer pour les grands-pères. Madame d'Ambreuse les recevait tous avec grâce. Dès qu'on parlait d'un malade, elle fronçait les sourcils douloureusement et prenait un air joyeux s'il était question de bal ou de soirée. Elle serait bientôt contrainte de s'en priver, car elle allait faire sortir de pension une nièce de son mari, une orpheline. On exalta son dévouement. C'était se conduire en véritable mère de famille. Frédéric l'observait. La pommade de son visage paraissait tendue et d'une fraîcheur sans éclat comme celle d'un fruit conservé. Mais ses cheveux, tire-bouchonnés à l'anglaise, étaient plus fins que de la soie. Ses yeux, d'un azur brillant, tous ses gestes délicats. Assise au fond, sur la causeuse, elle caressait les floches rouges d'un écran japonais, pour faire valoir ses mains sans doute, de longues mains étroites, un peu maigres, avec des doigts retroussés par le bout. Elle portait une robe de moire grise à corsage montant, comme une puritaine. Frédéric lui demanda si elle ne viendrait pas cette année à la Fortelle. Madame d'Ambreuse n'en savait rien. Il concevait cela, du reste. Nos gens devaient l'ennuyer. Les visites augmentaient. C'était un bruissement continu de robes sur les tapis. Les dames, posées au bord des chaises, poussaient de petits ricanements, articulaient deux ou trois mots, et au bout de cinq minutes, partaient avec leur jeune fille. Bientôt, la conversation fut impossible à suivre, et Frédéric se retirait quand Madame d'Ambreuse lui dit « Tous les mercredis, n'est-ce pas, Monsieur Moreau ?» rachetant par cette seule phrase ce qu'elle avait montré d'indifférence. Il était content. Néanmoins, il lui mit dans la rue une large bouffée d'air, et par besoin d'un milieu moins artificiel, Frédéric se ressouvint qu'il devait une visite à la maréchale. La porte de l'antichambre était ouverte. Deux bichons abanés accoururent. Une voix cria « Delphine, Delphine, est-ce vous, Félix ?» Il se tenait sans avancer. Les deux petits chiens jappaient toujours. Enfin, Rosanette parut, enveloppée dans une sorte de peignoir en mousseline blanche garnie de dentelle, pieds nus dans des babouches. « Ah, pardon, monsieur, je vous prenais pour le coiffeur. Une minute, je reviens. » Et il resta seul dans la salle à manger. Les persiennes